Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique destinée à redonner une espérance dans notre monde malheureux.
La peur fait partie de la vie. Pour beaucoup, elle enlève tout sentiment de paix, de joie et d'espoir. Elle peut également paralyser nos pensées et nos mouvements.
Actuellement, nous discutons sur la peur à la lumière de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons aborder, pour la deuxième fois, le thème de la peur et de l'avenir. Olivier me rejoint sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Il répondra à mes questions sur le sujet de la peur et apportera une perspective biblique. Bonjour Olivier.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons passé en revue certaines des raisons pouvant susciter en nous la peur de l'avenir. Olivier, vous nous avez encouragé à mettre notre foi et notre espérance en l'Éternel, car malgré les péripéties de nos vies, malgré nos circonstances changeantes et incertaines, nous pouvons compter sur son amour et sa fidélité. Olivier, je voudrais vous demander ce que nous pouvons faire lorsque nous avons peur de l'avenir.
Nous l'avons déjà dit, la peur peut soit nous aider à agir positivement, comme elle peut devenir en nous une entrave. Ainsi, elle peut nous pousser à prendre de bonnes précautions, des décisions sages, comme elle peut aussi nous paralyser et gâcher nos vies. La première chose à faire est de réfléchir, peut-être en présence de personnes perspicaces, afin d'examiner si l'objet de nos peurs est réel ou exagéré, et de considérer si ce qui nous effraie risque de se réaliser ou non.
Pouvez-vous vous expliquer davantage? Donnez-nous un exemple concret.
Certaines personnes ont peur de prendre l'avion. Elles craignent que l'avion ne s'écrase, et cette peur les conduit à ne jamais voler. Quel dommage! Il est vrai que parfois les avions peuvent s'écraser, et que les pertes humaines sont alors tragiques. Toutefois, ce genre de problème arrive en fait de façon extrêmement rare. Le risque et la probabilité qu'un avion s'écrase sont minimes. C'est pourquoi nous pouvons monter dans un avion avec confiance. Qu'est-ce qui vous fait peur? Il faut évaluer si l'événement en question a de fortes chances de se réaliser, ou si votre peur est disproportionnée par rapport au risque réel.
Mais que faire si, en réfléchissant ainsi, nous concluons qu'il existe fortes chances pour que ce qui suscite notre peur se produise?
C'est là où la peur peut jouer son rôle. Elle peut nous pousser à prendre de bonnes décisions afin de nous protéger de ce que nous redoutons. Par exemple, avez-vous peur d'attraper le sida? La meilleure précaution à prendre est de pratiquer l'abstinence sexuelle, en dehors bien sûr du mariage. Avez-vous de bonnes raisons de craindre une mauvaise récolte ou de perdre votre emploi? Ou de subir la violence dans les rues? Il serait bon alors de réfléchir à la façon de se protéger de ces risques. Comment les éviter ou comment s'y préparer?
Ce que vous dites est bien sage, mais il nous est impossible de nous prémunir contre toute éventualité.
Vous avez raison, Yann. Nous maîtrisons l'avenir de façon très limitée. Mais nous ne devons pas laisser la peur d'un avenir incertain que nous ne maîtrisons pas nous empêcher de vivre normalement aujourd'hui.
Mais que conseillerez-vous à ceux qui ont du mal à gérer leur peur au quotidien?
C'est dans la prière et lors de la méditation de la Bible que nous pouvons apaiser nos peurs. Pouvez-vous lire, Yann, un texte biblique? Il s'agit de Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 8.
Oui. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange.
Vous voyez, dans ce texte, le rapport entre la prière et la paix que Dieu accorde est évident. Lorsque nous avons un souci, lorsque nous avons peur, quel qu'en soit le motif, nous bénéficions du privilège de pouvoir nous approcher de Dieu afin de tout lui raconter. Et alors que nous prions, Dieu vient nous rencontrer afin de nous apaiser, afin de nous rassurer et de nous redonner espoir.
Ensuite, Paul nous encourage à nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste et pur, etc. Comment faire? Et en quoi cela peut-il être utile?
Lorsque nous avons peur, nos pensées sont souvent préoccupées par l'objet de nos peurs et nous ne cessons d'imaginer ce qui pourrait nous arriver. Nous ruminons souvent des scénarios qui ne se réaliseront pas forcément. Or, ce n'est pas à force de soucis que nous parviendrons à changer les choses. Au contraire, nous ne ferons qu'alimenter notre angoisse. Comment donc chasser ces préoccupations de notre esprit? Nous avons besoin de remplacer nos pensées négatives par des pensées plus saines. Où donc nous tourner pour nous nourrir de bonnes pensées? La meilleure chose que je vous propose est de lire la Bible. Dans la Bible, nous trouvons la révélation de la pensée de Dieu. Il s'y trouve les paroles les plus vraies, les plus nobles et les plus justes. En méditant sur ce que Dieu dit dans la Bible, nos pensées et nos sentiments se détachent de nos peurs et de nos préoccupations. Notre regard sur nos peurs change et nous ferons face à un avenir incertain avec plus d'assurance et de confiance.
Merci Olivier pour ce rappel sur l'importance de la prière et de la lecture de la Bible. C'est en pratiquant ces choses que nous pouvons entretenir une bonne relation avec Dieu. Notre Père Céleste veut apaiser nos peurs, tout comme un bon parent cherche à rassurer son enfant troublé par diverses craintes. Olivier, voulez-vous ajouter quelque chose avant de terminer notre discussion pour aujourd'hui?
Nous parlons de l'avenir et des craintes qu'un avenir sombre ou incertain peut susciter. Pour conclure, je voudrais rappeler que pour tout vrai chrétien, l'avenir est plutôt brillant.
Vous parlez de notre espérance éternelle, car un jour, Dieu nous ressuscitera pour que nous vivions avec lui.
C'est exact, Yann. Et dans cette nouvelle existence, la peur sera bannie. Cet avenir est certain, et c'est cette espérance sûre qui doit nous rassurer et nous aider à surmonter nos peurs au quotidien. Pour conclure, j'aimerais citer des versets du psaume 130. Pouvez-vous les lire, Yann? Il s'agit des versets 5 et 6.
Bien sûr. Moi, je m'attends à l'Éternel, oui, je m'attends à lui. De tout mon être, j'ai foi en sa parole. Je guette le Seigneur bien plus que les guetteurs n'attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs n'attendent le matin.
J'aime cette image des guetteurs la nuit qui attendent le matin. Ces hommes, ces soldats, font le tour des remparts de la cité durant les nuits afin de prévenir toute menace ou attaque de leurs ennemis. La nuit doit alors sembler longue et remplie de dangers imaginaires et parfois réels, mais les guetteurs parviennent à y faire face, encouragés par la certitude que l'aube bientôt pointera, que le jour bientôt arrivera. Nul ne doute que le jour suit la nuit, et de la même manière, nous ne devons jamais douter qu'une éternité merveilleuse suivra la nuit de notre parcours terrestre. Il est vrai que la vie est souvent difficile, mais la perspective d'un avenir éblouissant, cette espérance sûre et certaine, doivent apaiser nos cœurs, nous aider à tenir bon et à poursuivre courageusement notre chemin.
Nous remercions Olivier pour ses paroles fortes encourageantes qui fortifient notre espérance.
La gloire de Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean. Voici le titre de notre série de méditations bibliques. Ce titre s'inspire de Jean, chapitre 1, verset 14, que voici.
Celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité.
Notre invité Robert est de retour parmi nous pour nous conduire dans nos méditations. Bonjour Robert.
Bonjour Yann, et bonjour à tous.
Dans ce texte, nous apprenons que le Fils éternel de Dieu, qui est aussi nommé la parole, est devenu homme. Robert, expliquez-nous cela, car cette notion dépasse notre entendement.
Effectivement, Il s'agit là d'un grand mystère. Imaginons un instant que devant nous se trouve une immense fourmilière. Imaginons aussi que nous désirions entrer en contact avec ces fourmis pour leur faire passer un message. Quelle serait alors la meilleure démarche à faire ?
Franchement, je ne sais pas. Nous sommes tellement différents des fourmis. Il est impossible de leur communiquer quoi que ce soit.
Oui, pour moi, la meilleure façon de communiquer avec elles serait que nous devenions nous-mêmes fourmis. Alors, je suis d'accord avec vous pour affirmer que cela devient de l'impossible. J'utilise cette image à titre d'illustration.
Voulez-vous nous expliquer que la meilleure façon pour Dieu de se faire connaître des hommes et de leur parler est de devenir lui-même un homme ?
C'est exactement là où je voulais en venir. Ce qui sépare les hommes de Dieu est immense. Dieu est tellement différent. Il est esprit. Or nous, nous sommes matière. Dieu est parfait. Or nous, nous sommes imparfaits à bien des égards. Dieu est infini. Il ne connaît pas de limites. Nous, nous sommes si limités dans notre compréhension des choses, dans ce que nous pouvons accomplir. Dieu est parfaitement juste et pur. En lui ne se trouve aucun mal. Nous sommes si injustes, si impurs, si orientés vers le mal. Enfin, Dieu est tout-puissant et nous sommes impuissants. Si dans notre impuissance, il nous est impossible de franchir l'écart qui nous sépare des autres animaux afin de communiquer efficacement avec eux, pour Dieu, rien n'est impossible. Aussi a-t-il pu venir auprès des hommes au point de s'abaisser en devenant homme lui-même dans son désir de se révéler à eux, de leur dévoiler sa pensée et de leur apporter, comme le texte lu le déclare, la vérité et la grâce.
Je comprends votre raisonnement. Parce que Dieu est tout puissant, il lui est possible de devenir un homme et d'accepter d'habiter parmi nous. Mais qu'est-ce qu'un être humain pour que Dieu s'intéresse à lui? Le Seigneur demeure le Dieu parfait. Oh, notre cœur est si mauvais.
En effet, il est surprenant que Dieu ait accepté de devenir un homme, qu'il ait désiré vivre sur la terre auprès d'eux et qu'il ait accepté de souffrir parmi eux. Mais comme le déclare le texte lu, la parole devenue homme a apporté la grâce. Dieu devenu homme est un véritable acte de grâce qui nous rend admiratifs et reconnaissants.
Oui, et la grâce de Dieu témoigne aussi de sa gloire. Robert reviendra la prochaine fois pour nous expliquer davantage ce qu'est la grâce de Dieu.
Voici donc une bonne raison de venir nous retrouver lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui.
En attendant, nous prions pour vous, chers amis, afin que l'Éternel vous accorde un aperçu de sa gloire et qu'ainsi il apaise vos peurs.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.